Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin.
Et le journal, c'est avec vous Alexandre de Saint-Aignan, bonjour.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Une rumeur d'attentat sème la panique à Cannes.
37 personnes légèrement blessées après un mouvement de foule sur la Croisette hier soir. Aucun coup de feu n'a finalement été tiré. Après l'assassinat de plusieurs humanitaires français au Niger, la traque se poursuit pour tenter de retrouver les auteurs. Une semaine après les incendies de Martigues, une touriste de 77 ans toujours portée disparue. Et puis aux Girondins de Bordeaux, Jean-Louis Gasset va succéder à Paulo Sousa au poste d'entraîneur.
Dans l'enfer libanais à 7h15, si le gouvernement a annoncé hier sa démission, il en faudra sans doute plus pour calmer la colère de la population. Nous rejoindrons notre envoyé spécial Alice Moreno à Beyrouth à 7h15.
RTL Matin.
Il est 23h40 hier soir à Cannes quand les passants ont tenté de se mettre à l'abri de ce qu'ils croyaient être une menace.
On voit plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux qui montrent cette scène de panique. Beaucoup de monde en terrasse, totalement affolé, des tables sont renversées dans la confusion. Certains évoquent des coups de feu non loin de la Croisette. Maxime est le gérant du Café Bohème.
On était en train de servir et puis d'un coup il y a eu un mouvement de foule. Les gens ils ont couru sur les tables, ils ont tout retourné. Moi j'étais en cuisine. 30 personnes qui sont rentrées dans le couloir d'un coup à courir. Ils ont sauté par-dessus le pass de la cuisine, sont rentrés dans la cuisine. Ils ont dit ouais cachez-vous dans la cuisine. Moi je comprenais pas ce qui se passait quoi. Je pensais tout de suite penser à un attentat quoi. Et du coup j'ai fait comme eux, je suis parti, je me suis caché et puis après je suis parti en courant quoi. Notre restaurant il était plein vu que tous les gens se sont levés, toutes les tables ont été renversées donc on a eu énormément de dégâts. Ouais. On a eu 2-3 blessés aussi, on a eu les pompiers qui sont venus chercher quelqu'un parce qu'elle a eu le genou cassé à se faire piétiner. Ouais j'ai eu peur. Ouais. Tu penses tout de suite au Bataclan, tu penses à l'attentat qu'il y a eu à Nice et tout de suite c'est le moment de panique quoi. C'est pour ça que les gens ont paniqué aussi, je pense, ils sont comme moi quoi. Tout de suite, tu as peur. 5-10 minutes après, quand on se repose, on dit bon, c'est que de la casse, c'est que de l'argent perdu, et puis tout le monde va bien. La terrasse était pleine, toute la terrasse est partie sans pied. Au mieux ça qu'une attaque comme on pouvait le penser.
Des propos recueillis par Mickaël Lefebvre pour RTL. Au total, dans la panique, 37 personnes ont été légèrement blessées. Alors, que s'est-il vraiment passé? Le maire de Cannes, David Lisnard.
Le glacier qui nous a raconté la scène, ainsi que les témoins, ainsi que 2 policiers municipaux, et les images et tous les éléments que l'on a, concordent pour dire que c'est parti simplement d'une personne qui a crié coup de feu, fusillade, et que la rumeur a prospéré, et a parfois déliré d'ailleurs, jusqu'à penser qu'il y avait des forcenés ou des règlements de compte. Pas de coup de feu, pas de pétard, pas d'altercation avec la police, mais simplement la propagation d'une rumeur collective immédiate avec un mouvement de panique destructeur qui ont créé beaucoup de dégâts matériels dans les restaurants, mais apparemment en revanche sans grosses blessures, au moment où je vous réponds. On a vu ça il y a 2 ans déjà dans un quartier de Cannes, le Carré d'Or. Il y a eu ça aussi à Juin-les-Pins il y a 3 ans, ce qui en dit beaucoup sur la tension de la société.
Le maire de Cannes avec Baptiste Durieux pour RTL, la Côte d'Azur, qui reste marquée par le souvenir de l'attentat de Nice sur la promenade des Anglais. C'était il y a 4 ans.
Et au même moment, quasiment, on a appris dans la nuit une fusillade bien réelle, cette fois tout près de la Maison Blanche.
À Washington, Donald Trump a dû être exfiltré quelques minutes par les agents du Secret Service chargés de protéger le président des États-Unis, Loubna Anaki.
Tout s'est passé en direct. Le président vient tout juste de commencer son point presse quotidien lorsqu'un agent de sécurité lui demande de le suivre en dehors de la salle. 9 minutes plus tard, Donald Trump est de retour devant les caméras.
Il y a eu une fusillade. La personne est en route pour l'hôpital. Il semblerait que les services secrets aient ouvert le feu sur cette personne.
L'incident a été confirmé par les services secrets et la police de Washington. Le suspect, qui était apparemment armé, aurait été blessé par balle dans l'une des rues qui longe la Maison Blanche. Il faut savoir que toute la zone est entourée de barricades depuis le début des manifestations contre les violences policières. Les autorités assurent qu'à aucun moment le président ou les employés de la Maison Blanche n'ont été en danger. Pour l'heure, aucun détail n'a été donné sur l'identité du suspect ou ce qu'il tentait de faire. L'hypothèse qu'il puisse s'agir d'un déséquilibré n'est pas exclue pour l'instant.
La correspondante de RTL aux États-Unis, Loubna Anaki.
Au Niger, l'armée tente de retrouver la trace des meurtriers de plusieurs humanitaires français.
8 personnes ont été tuées dimanche, dont 6 membres de l'ONG française Acted. À Paris, le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête. Les humanitaires ont été attaqués alors qu'ils étaient à seulement 1 heure de la capitale, Niamey, en excursion touristique, une zone classée orange par le Quai d'Orsay. L'ONG Acted est présente dans 37 pays à travers le monde, essentiellement en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient et en Asie centrale. Cette ONG se rend là où personne ne va.
C'est même, oui, le mantra de l'organisation, œuvrer dans le dernier kilomètre de l'action humanitaire à Idlib, par exemple, sous les bombes de Bachar, en Afghanistan, en Somalie, au Yémen, et donc depuis 15 ans au Niger. À chaque fois, les équipes d'ACTED sont jeunes, engagées, se déplacent très souvent grâce à des corridors humanitaires sur des théâtres de conflit. C'est donc un paradoxe tragique pour son cofondateur Frédéric Roussel, que ça soit au détour d'une excursion de tourisme, que l'association ait été à nouveau endeuillée dimanche dernier.
Les ONG sont les acteurs qui, sur le terrain, doivent réparer les dégâts. La communauté nationale n'a pas pu régler les problèmes de la Syrie. Qui s'occupe des Syriens en zone rouge qui n'ont ni toit, nous les ONG. L'humanité a demandé aux ONG de travailler là où plus personne n'allait. Et maintenant, les ONG sont devenues des victimes prioritaires.
De quoi qualifier chez ACTED cette attaque meurtrière au bilan lourd de sans précédent. Pourtant, avant le tragique événement de dimanche, plusieurs employés ont déjà été pris pour cible. Cet été, au Nigeria, par des djihadistes, ou en 2014, lorsque le Britannique David Haines avait été décapité 18 mois après son enlèvement en Syrie par le groupe État islamique.
Les explications de Sinamir pour RTL.
RTL 7h06, il fait très très chaud et on commence à saturer les services d'urgence aussi.
Oui, l'épisode se poursuit encore aujourd'hui avec 15 départements en vigilance rouge, 53 en orange. Seuls les Deux-Sèvres ne sont désormais plus concernés. Des fortes chaleurs qui peuvent être très dangereuses pour les plus fragiles d'entre nous. Hier soir, les deux plus gros hôpitaux de Lille ne pouvaient plus accueillir de nouveaux patients. C'est une information RTL signée Antoine Decarne. À Paris, une vingtaine de volontaires de la mairie passent leur journée à téléphoner aux personnes les plus vulnérables à Agathe Landais.
Madame Imoun ? Oui, c'est la cellule canicule, je vous dérange pas ?
Aurélia enchaîne les appels. Elle travaille dans le social et c'est bénévolement qu'elle a rejoint la cellule de crise.
Donc là, comment ça s'est passé depuis les trois derniers jours, là, comme ça, avec les fortes chaleurs ?
Au bout du fil, une personne âgée qui est inscrite sur un fichier de la mairie de Paris, comme 9500 autres personnes, âgées ou handicapées. Aurélia doit les appeler pour s'assurer que tout va bien.
S'il y a un isolement, si on voit qu'il y a un problème de maintien à domicile, comme ça fait depuis trois jours qu'il y a la canicule, c'est vrai que les gens commencent un peu à être fragiles.
Et si Aurélia détecte un état de santé inquiétant chez son interlocuteur, elle transfère alors l'appel à Christiane, médecin à la retraite.
Voilà, on leur demande s'ils boivent, s'ils se rafraîchissent, s'ils habitent sous les toits, si ils peuvent mettre du linge mouillé sur eux. Enfin, on leur donne les conseils pour que ça se passe le mieux possible.
L'efficacité de ce centre d'appel ne fait aucun doute pour Laurent Tasbazan, responsable de la cellule de crise.
Depuis plusieurs années qu'il est mis en place, on a eu très peu d'événements dramatiques, dû au fait que nous avons des travailleurs sociaux et des médecins qui peuvent évaluer quasi au quotidien l'état de santé de la personne. Dès lors qu'on suspecte une dégradation, on peut intervenir très rapidement.
Intervenir en leur apportant des repas, des courses ou en donnant des ventilateurs aux plus précaires. Depuis le début de ces fortes chaleurs, 600 personnes ont été aidées à Paris. C'est 4 fois plus que l'été dernier, lors de la dernière canicule.
Un reportage d'Agathe Landais à la mairie de Paris pour RTL. Toujours en région parisienne, un violent incendie s'est déclaré cette nuit dans le Val-de-Marne, dans un immeuble d'habitation à Vincennes. Il y aurait 2 morts selon le dernier bilan des pompiers. 150 soldats du feu ont été mobilisés. Les circonstances de l'incendie ne sont pas encore connues. L'incendie est désormais maîtrisé.
On en vient à cette disparition inquiétante une semaine après les incendies de Martigues.
Impossible de localiser une vacancière âgée de 77 ans. Marie-Thérèse Villebois faisait partie des 2700 évacués, mais elle n'a jamais regagné son bungalow. L'un de ses fils est descendu sur la côte pour tenter de la retrouver, Hugo Hamelin.
Oui, c'est ça, il se démène, Marc Villebois, pour tenter de retrouver sa mère. Après avoir quitté le gymnase où elle avait passé la nuit, elle a pris un taxi, s'est arrêtée dans un camping qu'elle ne connaissait absolument pas, elle y a quand même dîné, puis elle est partie à pied. Il était 22h mercredi dernier et depuis, aucune nouvelle, aucun indice.
Jusqu'à présent, nous n'avions jamais eu ce genre de situation avec ma mère. Je parle d'une disparition où nous ne savions pas où elle était et nous n'avions jamais eu à répondre à un appel téléphonique selon lequel elle aurait été égarée, ne aurait pu rentrer, voilà, des éléments de ce type.
Marie-Thérèse, avec sa robe à fleurs noire et blanche, passait tous ses étés sur la Côte Bleue depuis les années 80. Elle connaissait bien l'endroit. Alors a-t-elle été déstabilisée par son évacuation et par l'incendie ? En tout cas, les enquêteurs aujourd'hui ne peuvent pas compter sur la triangulation de son téléphone portable pour tenter de la localiser.
En l'occurrence là, avec le feu qu'il y a eu lieu sur Martigues, un certain nombre de relais étaient hors service à ce moment-là et que seul un relais prenait en charge le téléphone de ma mère. mer, ce qui fait que la zone de couverture est plutôt vaste à ce niveau.
Nouvelle opération de recherche donc ce matin avec de nombreux riverains qui se sont portés volontaires.
Et on continuera de suivre ça avec vous, Hugo Hamelin, à Martigues pour RTL.
Un accident impressionnant mais sans gravité hier à Lourdes.
Un violent orage a éclaté, provoquant une coupure de courant dans le funiculaire. 11 personnes ont été légèrement blessées, Patrick Tégéraud.
C'est bien la foudre qui a causé une micro-coupure électrique et tout le système a dû se mettre en sécurité, ce qui a provoqué l'arrêt brutal de la cabine, comme un brusque coup de frein dans un bus. La cabine a repris sa descente ensuite normalement pour s'arrêter à la gare en bout de ligne. Ce qui a facilité d'ailleurs l'intervention des 40 pompiers. Il y avait 27 passagers dans leur chute, 11 d'entre eux ont été légèrement blessés, dont 2 qui ont dû être conduits à l'hôpital pour des examens complémentaires, un homme de 51 ans et une femme de 56 ans pour un traumatisme facial, a priori sans danger. Le parquet de Tarbes a ouvert une enquête pour savoir précisément comment tout cela ait pu se produire. Et en attendant le passage des experts, eh bien le funiculaire ne circulera plus.
Les explications de Patrick Tégéraud pour RTL.
C'est la fin du feuilleton chez les Girondins de Bordeaux qui officialise l'arrivée de leur nouvel entraîneur.
Oui, c'est Jean-Louis Gasset qui va succéder à Paulo Sousa. L'entraîneur portugais quitte le club d'un commun accord. Arrivé en mars 2019 pour un contrat de plus de 3 ans, il ne sera finalement resté que 17 mois. Jean-Louis Gasset devra tenter d'apporter plus de sérénité, plus de stabilité aux Girondins. Mais Denis Grandjou, ça ne sera sans doute pas suffisant pour calmer la colère des supporters qui réclament toujours la démission du président du club.
Oui, pour Pierrot Labatte, figure tutélaire du club des Girondins de Bordeaux, découvreur de Zizou, Bichente Lizarazu ou autre Christophe Dugarry, l'arrivée de Jean-Louis Gasset et d'Alain Roche, qu'il a connu gamin à Bordeaux, est une annonce largement positive.
Ce que je puis dire d'Alain, c'est que c'est un gars qui n'est pas polémique. N'oublie jamais qu'il a été joueur. Ça va surtout stabiliser une partie, et j'espère qu'à force de réflexion et de dialogue, ça va stabiliser un peu tout.
Car la lutte frontale entre le président du club, Frédéric Longuépé, et les ultras, depuis un an, ne faiblit pas. Elle a été ravivée il y a quelques semaines par le changement de logo. Florian Brunet, président des Ultramarines.
La ficelle est un petit peu facile et le communiqué du club est une véritable honte, une crise de mégalomanie tout à fait symptomatique du personnage. Encore une fois, Frédéric Longuépé pourrait nous recruter Lionel Messi ou nous apporter un titre de champion de France qu'on le détesterait de la même manière. Et il n'y aura aucune quiétude aux Girondins de Bordeaux tant que Frédéric Longuépé sera là.
La présentation officielle de Jean-Louis Gasset et d'Alain Roche aura lieu vendredi lors d'un point presse au Hayan.
Denis Grandjou à Bordeaux pour RTL. Le Tour de France partira de Brest l'an prochain. Les 4 premières étapes vont parcourir la Bretagne qui remplace au pied levé le Danemark et Copenhague pour des raisons liées à l'épidémie de coronavirus. L'édition de la Grande Boucle cette année, elle, partira de Nice le 29 août prochain.
Les courses de cheval, elles ont lieu à Deauville.
Les pronostics de Dominique Cordier pour le Quintet, il vous conseille de miser sur le 2, le 6, le 14, le 11, le 10, le 9... L'As, le 4 et la dernière minute, c'est le 11. Vivi Bonnebouille.
Vivi Bonnebouille, mais ouais. Vivi, vous aussi, vous avez une bonne bouille.
Oh, ça, c'est gentil.
Vous revenez à 8h.
Vivi, merci.
Disais, les courses de cheval, c'est les courses de chevaux, bien entendu. Oui. Ils sont plusieurs. S'il n'y a qu'un cheval, il vaut mieux pas l'intérêt. Merci beaucoup, Alexandre. 7h13 sur RTL.